La revue de presse internationale avec vous Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Florian.
Et votre revue de presse dans laquelle ce matin il est question de mensonges, d'égo, de corruption et de coups de poker.
Voilà, alors évacuons le mensonge avec ce nouveau coup de théâtre hier à Downing Street, lorsque l'on a appris que le favori pour succéder à Theresa May, le tonitruant Boris Johnson, devrait être entendu par une cour pour mensonges. C'est le Brexit bien sûr qui nous offre ce nouveau développement et le fameux slogan sur le bus du mouvement pro-Brexit lors de la campagne référendaire. Nous donnons à l'Europe 350 millions de livres par semaine. Il vaudrait mieux les consacrer à la santé. Un mensonge répété par Boris Johnson assure les plaignants. Mais dans les colonnes de l'Independent, ses soutiens se mobilisent. Il s'agit d'empêcher le Brexit, clame-t-il. Même les rivaux de Johnson dans la course à la succession de Theresa May critiquent un mélange des genres. Ce débat devrait être tranché par nos électeurs, estime ainsi Dominique Raab. Quant un autre des prétendants au poste de Premier ministre, Matt Hancock, ministre de la Santé, plaide que ce n'est pas à une cour de trancher des questions politiques. Chacun, dit-il, doit pouvoir faire prévaloir ses arguments dans un débat démocratique et non devant la justice.
Justice et politique, c'est un peu la question qui nous anime dans une autre région du monde, au Proche-Orient, en Israël, où la Knesset, le Parlement, a voté sa propre dissolution.
Oui, vous allez voir le lien, Florian. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition dans le temps imparti, nous rappelle Middle East Eye. Les électeurs sont donc convoqués de nouveau en septembre prochain. Le coup est tombé à minuit dans une ambiance de grande tension à la Knesset, décrite par Mariv, qui parle d'une journée dramatique. Netanyahou a beau assurer qu'il remportera ce nouveau scrutin. Middle East Eye rappelle qu'il n'a pas réussi à obtenir le soutien des 5 élus du parti nationaliste Beitenu. Le parti d'Avigdor Lieberman exige la fin de l'exemption de services militaires dont bénéficient les étudiants des écoles talmudiques. C'est l'une des plus importantes défaites de sa carrière politique, estime Haaretz, sa pire nuit en 13 ans. C'est un Bibi, le surnom du chef du gouvernement israélien, au visage couleur de cendre, qui s'est présenté devant les députés. Un Netanyahou qui fulmine contre l'injustice que lui fait Avigdor Lieberman. Il a donc maintenant 3 mois et demi pour travailler sur sa stratégie, poursuit Haaretz. Pour le Times d'Israël, si l'on en est arrivé à un tel fiasco politique, c'est en raison d'un système parlementaire fracturé, d'égo démesuré et de rancœur persistante. La dernière fois que l'on a voté, c'était il y a 7 semaines. Et nous allons retourner aux urnes en septembre. Si vous trouvez cela étrange, écrit le journal, vous avez raison. Israël a certes un système politique qui nous a habitués au remous, mais il ne nous était jamais arrivé de voter 2 fois dans la même année. Encore une élection provoquée par les déboires personnels de Netanyahou, ajoute Haaretz.
Et nous y voilà.
Et oui, c'est bien pour être immunisé contre toute poursuite que Netanyahou a provoqué cette dissolution. Il joue sa survie. La presse israélienne se retrouve sur ce constat avec plus ou moins de sévérité. L'histoire aurait pu se dérouler autrement, explique Yediot Aharonot. Le président israélien aurait pu charger un autre responsable de former un gouvernement. Mais Netanyahou a précipité l'issue pour éviter le bras de la justice qui souhaite l'entendre pour fraude et corruption. Le plus acide est sans doute Haaretz, fustigeant la frénésie délirante du Premier ministre dans son désir d'échapper aux poursuites. Le journal n'épargne guère une Knesset dont 70 députés ont choisi de s'autodissoudre alors qu'ils viennent à peine d'être élus, et ce, pour complaire au Premier ministre, sans égard aucun pour le coup qu'aura cette campagne et la paralysie du gouvernement. Il condamne le pays à 110 jours d'une campagne haineuse jusqu'au 17 septembre. Ces nouvelles élections vont coûter cher, opine Yediot Aharonot, mais pas seulement financièrement. C'est le coût pour la société israélienne qui l'inquiète. L'agressivité des hommes politiques, combinée à la toxicité des réseaux sociaux, ont participé à une poussée de haine sans précédent au sein de la société israélienne. L'impasse politique s'est transformée en « eux contre nous », les laïcs contre les ultra-orthodoxes, comme si nous n'avions pas assez de problèmes.
Et les répercussions, Marie-Pierre, vont bien au-delà d'Israël. Hein.
Oui, ce nouvel épisode et ces semaines d'incertitude vont compliquer les efforts américains pour faire avancer leur plan de paix. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, est attendu à Jérusalem ce jeudi, mais le New York Times doute que sa visite soit très fructueuse, avec un État hébreu sans gouvernement élu au moins jusqu'à l'automne, un moment où Trump sera alors probablement accaparé par sa propre campagne pour sa réélection. Les chances de faire avancer un plan de paix déjà rejeté par les Palestiniens sont plus mince que jamais, écrit le New York Times, qui cite les propos du vétéran palestinien Saeb Erekat, selon lequel ce plan de paix qualifié de deal du siècle par la Maison Blanche sera sans doute le deal du siècle prochain.
Et puis une question pour terminer cette revue de presse.
Oui, c'est Via Atlantique qui la pose. Une journaliste a été assassinée dans un pays européen. Pourquoi personne n'a-t-il donc été arrêté? C'était en octobre 2017, rappelle la BBC. Caruana Galizia a été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée. Elle enquêtait sur les affaires de corruption, mettant en cause notamment le gouvernement. Son assassinat n'a toujours pas été résolu. La BBC revient sur le rapport publié par le Conseil de l'Europe qui sera débattu fin juin à Strasbourg. Très sévère, il dénonce l'inertie de Malte et l'impossibilité d'une enquête indépendante. Un document accablant, écrit The Atlantic. Avant de poursuivre, si ce rapport concernait n'importe quel État européen, les têtes rouleraient. Mais nous sommes à Malte, le plus petit État de l'Union européenne et le maillon faible de l'Europe en matière de blanchiment d'argent. Malte est l'exemple éclatant de l'échec des institutions européennes face à l'effondrement de l'État de droit et de détailler. Seuls de petits poissons ont été inquiétés quand les gros restent au pouvoir, notamment le ministre de l'économie. Il aurait été en contact avec les suspects, mais n'a même pas été entendu par la police. Il faut dire qu'à Malte, c'est le Premier ministre qui nomme le procureur général et le chef de la police. Or, rappelle Via Atlantique, le chef du gouvernement maltais était l'une des cibles favorites de la journaliste. Le Premier ministre a en revanche été prompt à ordonner l'enlèvement des mémoriaux improvisés en hommage à Caruana Galizia. On a le sentiment, écrit Via Atlantique, que le gouvernement préférerait que Caruana Galizia soit effacée des mémoires.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.